on est mardi. Coudon, je pensais qu'on était vendredi. Petite déception.
Petite déception.
Salut, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 14h dans la première partie de cette émission-là qui s'appelle l'Open Mic. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot.
Oh là!
Audrey, que j'aime bien.
Je t'aime aussi, Yann.
On t'apprécie.
Mais merci, c'est gentil, c'est de l'amour ce matin.
Quand tu dis un homme, je t'aime, puis dit on t'apprécie.
Ouais.
Ça fait quoi, hein? Ça fait quoi ton ego?
Ben ça fait mal en dedans.
Ça fait mal en dedans.
Mais ça peut pas faire mal en dedans parce que tu m'as dit que tu m'appréciais avant. Tu sais, ben
oui.
Je t'ai juste renvoyé la balle.
Ben oui. Je travaille qu'avec des gens que j'apprécie. grosse nouvelle pour toi.
Ah!
Je pense qu'on va le dire à la planète entière.
Ah oui, j'ai envie de le crier sur tous les toits.
Je pense que t'as gagné à la loterie.
Absolument.
Et c'est quand même un maudit beau gros montant que t'as, là.
J'ai un médecin de famille, gang. Je suis tellement énervée, là. Honnêtement, je l'ai appris il y a pile 10 minutes, OK? La dame m'a appelé à 9h52. Puis je reconnaissais pas le numéro. Puis là, bonjour, Mme Pinchot. Là, j'avais comme l'impression que c'était...
Ouais.
Bien, je voulais juste vous annoncer que vous avez officiellement un médecin de famille. Quoi? Écoute!
Elle, là, mettons qu'elle travaille dans le service à la clientèle, là, c'est elle qui annonce les plus belles nouvelles.
Absolument.
À tous les jours.
Elle dit, c'est le fun, hein? Oui, c'est vraiment le fun. Ça fait 7 ans que j'attends. C'est vraiment le fun.
Mais faut que tu te dises qu'à chaque fois, elle dit à tout le monde, c'est le fun, hein?
Oui, mais regarde.
Puis chérie, comment ça a été à la job? J'ai annoncé à des gens qui avaient des médecins de famille. Puis je leur ai dit que c'était le fun.
Et on attend tellement longtemps.
Combien d'années?
Bien, moi, comme je te dis, ça fait facilement plus que... J'ai le goût de te dire 7 ans. Parce que j'ai été inscrite du côté de Montréal quand j'y habitais. Puis là, tu peux faire un transfert de région, tu sais. Puis tu vois, c'est en avril dernier, puis on avait un peu parlé ensemble, où j'avais rappelé. Parce que là, je me disais, aucune chance que j'aille du côté de Montréal, mais que j'aie une petite famille. Puis tout, là, je sais que je vais rester dans les environs de Québec. Puis j'avais rappelé, puis j'avais même fait ouvrir mon dossier, si vous vous souvenez bien, pour le fait de pouvoir avoir un ou une IPS, comme si tout le monde écoutait. Et ça sonnait vraiment ébu, hein? Non, mais c'est parce que Yann, tout le monde m'écoute, puis tout le monde sait qu'en avril
ben
dernier,
oui.
J'ai parlé que j'avais appelé le gamin.
Qui ne sait pas ça?
Voyons, moi! Tout le monde est au courant! En avril dernier, j'ai appelé au GAMEF pour faire un transfert de dossier. Donc, la personne me répond, puis là, elle m'explique que je peux maintenant dire que je veux ou je suis ouverte à avoir un ou une EPS au lieu d'un médecin de famille.
Une infirmière praticienne.
Exactement. Parce que au final, pour la job de médecine familiale, ça va revenir un peu au même parce que si demain matin j'ai un cancer, je vais être redirigée anyway, tu sais. Fait que j'avais dit, bien certain, si ça peut aller plus vite, c'est sûr que je dis oui. Fait que moi, j'étais comme sur les deux listes simultanément de ce que je comprends. Et là, bien ce matin, on m'a appelé pour me dire que j'avais officiellement un médecin. Fait que j'aurais pas d'IPS, je vais avoir un médecin de famille.
Est-ce que tu peux avoir, tu sais, comme moi, je me promène pas mal. Là, sur, mon cœur est en Beauce parce que mes deux gars sont là, puis je reste à Val-Bélair.
Ouais.
Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux faire ma demande pour un large périmètre, mettons? Est-ce que je pourrais avoir mon médecin de famille à Beauceville?
Ben, tu peux, mais tu peux pas. Ils t'inscriront pas pour tous les hôpitaux et les cliniques, là, tu comprends? Là? Fait que non, faut que tu te situes un peu plus... Tu sais, moi, mettons, c'était Portneuf et les environs. Fait que je pense que j'avais nommé la capitale nationale, je sais plus lequel elle avait mis, mais là, je me ramasse à Saint-Marc-des-Carrières.
Ouais.
Ce qui fait amplement mon bonheur.
Ben
là,
oui.
Je m'en contrefous, j'aurais été pognée pour monter à Montréal. Là. Fait que moi, ça fait vraiment mon bonheur, mais je te dis, je suis tellement énervée. Là, je l'ai pas annoncé à mon chum encore.
Il te demande-tu une preuve de résidence? Tu l'as annoncé à nous avant lui?
Oui, bien là, écoute, j'ai pas eu le temps, là, on est rentré en onde. Les priorités, là.
J'adore. On sait des affaires que lui sait.
Exactement.
Pas. Mais est-ce que. Est-ce que tu dois rentrer ton adresse?
Bien, il te le demande, elle confirme avec toi. Est-ce que tu habites bien à telle adresse pour être sûr que tout est beau? Puis là, bien, automatiquement, quand on t'appelle pour te dire que tu es un médecin de famille, il y a un premier rendez-vous qui est pris juste pour toute la paperasse, là, puis les antécédents, puis les blablabla.
Y a-tu des priorités? Y a-tu des priorités, c'est-à-dire ils vont prendre les personnes plus âgées avant?
Ben là, il va y avoir des priorités avec ce que Christian Dubé a annoncé, de ce que je comprends. Là. Mais non, en ce moment, tout le monde est dans le même pot, puis sa liste t'attend. Puis même que moi, j'ai eu peur quand j'ai appelé en avril dernier parce que on m'a comme dit, ben là, on te retire de la liste de Montréal et on te remet sur une nouvelle liste. Fait que je me disais, voyons, c'est-tu un autre 7 ans qui m'attend?
T'es sa liste t'attend. C'est pas pour rien qu'ils nous appellent les patients.
Voilà, exactement.
Parce qu'on attend.
Hey, ça vient-tu de là pour vrai?
Je sais pas. Mais à chaque fois que j'entends le temps que ça prend pour accéder à un médecin, à l'urgence...
C'est sûr que ça vient de là.
On est patient.
Ben oui, on est patient en tabarnouche, je me dis.
On s'en pose des questions.
Fait que je suis vraiment énervée. C'est officiel. Si un bobo, j'aurais un médecin. Mais si le gouvernement me le laisse, hein, parce que...
Ouais. Je te posais la question sur les priorités parce que je me suis souvent fait dire, moi, par les médecins, que j'étais pas payant.
Ah, mais c'est sûr.
J'y vais jamais chez le médecin, à moins qu'il arrive une tragédie comme est arrivé, comme il m'est arrivé il y a quelques semaines où mon épaule a décidé de quitter mon corps. Mais je vais jamais chez le médecin. Fait que pour lui, m'avoir sa liste puis que je ne vais pas le voir, c'est pas payant.
Non, effectivement.
Puis j'ai des auditeurs qui m'ont écrit pour me dire, puis il y a des médecins qui nous disent « Non, ça, c'est une légende urbaine. » Mais j'ai des auditeurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils se sont fait menacer de perdre leur médecin de famille parce qu'ils ne se pointaient pas au moins une fois par année pour un rendez-vous général.
Ce qui n'est pas mauvais en passant de faire au moins ton suivi une fois par année. Il
faut juste que ton médecin ait des petits doigts, mais je suis d'accord avec toi.
Ah, Yannick! T'es précieux, là.
C'était peurant un peu.
Ben oui, ben veux-tu qu'on en parle de c'était peurant?
La cinquantaine approche, Audrey, pour nous autres.
Je sais.
Fait que tu sais...
Mais vous autres, c'est juste quand la cinquantaine approche. Nous autres, c'est du moment où on a nos premières relations qu'il faut qu'on se mette les pieds sur des étriers pour toute notre vie, tous les ans. Ouais. T'imagines? T'es précieux, là.
Mais là où le soleil va pas, tu peux pas aller.
Oh, ouais, non, regarde.
C'est
pour ta santé.
Ça, c'est fait pour sortir. C'est pas fait pour rentrer.
As-tu fait tes tests?
Non.
T'as pas fait des tests encore?
J'ai fait de tests. J'avais espoir, il y a à peu près une dizaine d'années, là, j'avais espoir que la fameuse piqûre, la prise de sang, allait être suffisante.
Non.
Puis effectivement, aujourd'hui, en 2025, ils prennent une prise de sang, mais le médecin, le bon vieux médecin, a quand même un désir incroyable de faire le test manuel.
Ben mais c'est important! Imagine que t'aurais un cancer de la prostate.
Des fois, je les soupçonne, mais peut-être.
Yannick.
T'as raison.
Faut vraiment que tu ailles faire tes tests. T'es en âge, là.
Ouais.
Faut que tu arrêtes de penser que tu as 25 ans.
Ça passe de moins en moins auprès des filles, hein?
Ben, je veux pas dire que ça passe de moins en moins.
Oui, ça passe de moins en
moins.
Je fais pas 26.
Tu fais pas non plus 50, on s'entend, là. Mettons que je te rencontre
entre
dans
les deux,
la rue.
Ouais.
Parce que
ça, c'est intéressant.
T'es chanceux parce que t'es pas poivre et sel, toi, là. Tu commences à avoir un petit peu de blanc dans la barbe, mais tes cheveux, là, tu te teins-tu, Yann?
Non.
Tu me le jures?
J'ai des poils sur le bord, tu sais que ça? Des petits poils sur le bord, mais je n'ai pas tant.
Tu te teins-tu?
Ben non,
jure. Regarde-moi dans les yeux, jure-moi sur ta tête.
Jurez que je me teins pas les cheveux. Jurez.
Je serais morte. Donne-moi d'apprendre que tu te teins les cheveux, je serais morte.
Que, quand j'ai rencontré Elodie, je pense que c'était en 2011-2012, Elodie, notre collègue.
Oui.
Ça devait être en 2011. C'était en 2011. Puis, elle avait un conjoint à l'époque, Tish, tu sais, m'a donné le début de son surnom. Puis, la première question qu'il a posée à Elo, c'est « Est-ce qu'il se teint? »
Ah, c'est bon.
Oui. Mais mon grand-père, il avait les tempes, il est décédé quand même assez vieux, autour de 85 ans. Puis, il avait juste les petites tempes blanches.
Bien, t'es chanceux, là, parce que t'es encore bien foncé. Je te donnerais 35.
35?
Oui. 35-36, mettons, là, tu pourrais passer pour ça dans le noir, dans un bar.
Fait que c'est ça que j'ai écrit sur ma fiche Tinder.
Oui, bien là, normalement, les filles n'aiment pas trop le mensonge. Là.
Ouais.
Je te conseille
d'aller. Mais les filles mentent sur leur âge. Pourquoi les gars n'ont pas le droit
les
de le faire?
Les jeunes filles mentent sur leur âge.
Oui.
Je pense qu'elles ont peur de ne pas être prises au sérieux.
Moi, j'avais une femme dans ma vie qui a eu, pendant 6 ans, elle a eu 29 ans.
Arrête.
C'est capoté.
Elle me disait ça, elle voulait pas que tu dises qu'elle vieillisse.
Mais je sais pas, elle me demandait de la croire. Là. J'ai dit, ah oui, t'as encore 29 ans cette année.
Ah oui, tous les ans, elle, c'était 29.
Okay, c'est ça. Oui.
C'est spécial, ça, hein? C'est comme moi dans ma tête.
Elle voulait pas changer de décennie.
Je comprends. Moi, dans ma tête, mes parents sont restés à 38 puis 39. Je me souviens de leur anniversaire de 38-39. Puis dans ma tête, là, je sais pas si c'est parce qu'ils sont très jeunes de cœur.
Ouais.
Ils sont restés fixés à cet âge-là. 38-39 ans.
Moi, je suis resté fixé à 16-17.
Écoute, je peux pas contredire au niveau du comportement.
Sauf au hockey! Je sais pas, il y a des gars qui nous écoutent qui sont dans les ligues de garage. Puis des fois, tu peux avoir 30 ans, Audrey, de différence avec le gars contre qui tu joues.
Oui.
Hier, là, ça paraissait la différence d'âge entre notre équipe et l'autre équipe qui était l'autre côté.
C'était des plus jeunes, l'autre équipe?
Notre équipe, on était un peu plus vieux. Là. Je pense que j'ai un chum dans la construction. Il doit être autour de 53-54 ans. J'en ai un autre qui est à l'attaque aussi, qui est autour... Guy doit être autour de 50. Fait que, tu sais, on commence... il nous en reste moins à faire au hockey qu'on a notre fête.
Mais moi, je trouve ça hot, ce mélange-là. Mon chum joue avec un monsieur de 70 ans. 70 ans.
Ouais.
C'est fou, là.
Ouais, c'est touché, mais il y en a qui sont en shape et encore capables de le faire. Bien touché oui. Dans le sens où s'ils se blessent, il y a des chances de fracture.
Mais je pense que tu te fais attention.
Peut-être un peu plus. Ouais, mais au hockey ou encore au deck hockey, c'est tough de faire attention parce que quand tu piles sur un bâton, mettons, t'as le pied qui part. Même si c'est pas intentionnel, la part de l'autre joueur. Mais c'est ça. Puis là, on joue contre des gars. Puis dans notre équipe, on en a un ou deux là, qui sont autour de 17-18. Mais pour le reste, on est tous des gens qui sont dans quarantaine, à peu près. Quarantaine, puis j'en ai deux qui sont dans cinquantaine. Puis ils ont 30 ans de différence contre les gars contre qui ils jouent. Là.
C'est
fou.
Capoté, hein? Mais moi, je trouve ça mal.
À l'époque, on voyait pas ça. Parce qu'à l'époque, les gars de 50-60 avaient déjà de l'air en fin de vie.
Aujourd'hui, ils sont en forme, ils prennent soin de leur santé.
Aujourd'hui, cette génération-là, effectivement, t'as
j'admire
raison.
J'admire ça.
Ils font pas mal plus attention. Puis, tu sais, à un moment donné, il va y avoir des ligues de décoquer. La ligue de décoquer qu'on a, nous autres, c'est 35+. Mais il n'y a pas encore de 50+. Mais je pense que quand on va être rendu là, 50+, on va être capable de faire quelques équipes de décoquer encore. Oh, oui.
Mais je le souhaite. Moi, tu vois, j'avais une discussion avec ma mère cette semaine parlant de sport puis d'âge. Là. Mes parents sont jeunes. Mes parents, mon père a 55, ma mère a 54. Puis tu vois, ma mère, cette semaine, on avait une discussion sur le fait que quand les enfants partent un moment donné, puis là, ben, t'apprends à te retrouver, puis ci, puis ça. Puis mes parents ont comme ralenti le rythme un peu dans la dernière année. Puis ma mère, elle me disait, crime ton père, il aime ça être dans le garage à la maison pour faire ses bébelles. Moi, je m'emmerde. Je m'emmerde, je sais pas quoi faire. Puis on s'est mis à regarder à la ville les sports qu'il y avait, justement, puis les équipes qu'il y avait. Puis là, tu vois, là, elle est super contente, elle s'est inscrite en boxe puis dans un autre cours des ligues de sport.
Ben
pour faire
de boxe,
même, là.
La boxe. Boxe ma tante, là.
Non, pas boxe. Ma mère, elle boxe en tabarnouche. Ma mère, elle fait de la boxe depuis des années.
Non, elle boxe ma tante.
Non, non. Yann, honnêtement, je te mettrais dans un ring avec ma mère, j'aurais peur pour toi.
Ah oui, OK, ouais.
Pour vrai.
Ouais, ça, c'est souvent les filles, vous avez ça dans votre tête. Là.
Mais tu sais, quand la rage pogne, là.
Ouais, je comprends.
Tu comprends,
mais aux Olympiques,
on défonce.
Aux Olympiques, c'est pas pour rien qu'on met pas un gars contre une fille.
Mettons qu'on se défend autrement, tu sais, je vais le dire comme ça.
Ouais.
Mais bref, l'importance, je trouve, de continuer à bouger. Parce que c'est au-delà du sport, Yann, là. Tu sais, vous socialisez là, à travers, là, j'ai l'air de parler comme si t'étais un bonhomme, là. Mais vous socialisez à travers ces moments-là, au deck hockey ou n'importe quel autre sport. Je trouve que ça apporte plus que juste la forme physique.
Non, non, hier, les deux premières périodes, on regardait les gars de l'autre équipe courir autour de nous autres. Là. C'était assez particulier. Non, non, on a perdu.
Vous avez perdu combien?
On méritait de la... Je pense qu'on a perdu 4-1.
Ah, 4-1. C'est pas si pire, c'est respectable.
Mais on méritait de la perdre, on n'était pas, pas au summum de notre forme.
Avec des pratiques ou juste des games?
C'est juste des games.
Juste des games.
Ouais. Les pratiques, c'est fini. Là.
Terminé.
Il n'y a plus rien qui s'améliore.
Ah, oh, mon Dieu. Fait que vous devez endurer ce qui se passe à la glace.
Exact. Hey, est-ce que tu es une grande consommatrice de malbouffe?
Oh, mon Dieu, Yann. J'ai pas le choix de te dire oui.
Moi, je vis pour la malbouffe. J'adore la malbouffe.
Ça dépend ce que tu rentres dans malbouffe. Là, je passe pas chez McDo tous les jours. Là. Je suis plus du genre...
Moi, j'aime ce qui est rapide.
Oui, exactement. C'est vraiment bien dit. Je prends ce qui est à portée de main, fait que ça amène le fait que j'ai pas toujours la plus belle des alimentations, mais je mange diversifié.
Fait que j'appelle à la maison, il n'y a personne, je sais que je suis seul. Ben, je vais aller, mettons, au métro à côté de chez nous, puis je vais me prendre une petite pizza congelée, mettre le four à 400, attendre 20 minutes, puis merci, bonsoir, j'ai ma petite pizza, puis j'ai touché à rien. Après ça, je dompe ça dans les poubelles, puis la récupération, puis c'est clair. Puis on dirait que je suis un adepte de malbouffe. Puis la malbouffe, ça peut être la pizza congelée, ça peut être, tu sais, les petits goldfish là, qu'on achète pour les enfants.
Ah, ben oui, les poissons.
On fait à croire qu'on achète ça pour les enfants, puis finalement, les parents, ils bouffent la moitié du sac. Ça peut être les biscuits, la malbouffe, ça peut être, tu sais, des céréales.
Mais c'est tout ce qui est transformé,
moi,
en fait.
Les Frosted Flakes ou les Fruit Loops, là, le matin, je mange encore ça.
Arrête!
Fait que c'est de la malbouffe. Oh, oui,
moi, c'est un dessert, par exemple.
Moi, je pense qu'à l'intérieur, c'est scrap. les pogos à Max, c'est de la malbouffe.
Mais oui, c'est sûr.
Toutes les drinks énergétiques, ça peut être considéré comme de la malbouffe. C'est quoi le pourcentage de malbouffe qui est rendu dans la vie des Canadiens en moyenne?
Oh, mon doux. J'irais où? J'irais dans un 70, là.
Avec tout ce que je viens de te nommer, là, bon, les céréales sucrées, le beurre de peanut, ça peut être considéré comme de la malbouffe.
Ça en mange trop, effectivement.
Puis alors qu'il y en a qui survivent grâce au beurre de peanut. Là. Mon cégep, là, c'était merci au beurre de peanut. Là.
À cuillère, moi, le soir. Oh, mon Dieu, que je trouvais ça bon.
Avec un grand verre de lait frais.
c'est plus que 70?
Après ça, ça te disait French moins, puis là, tu pouvais pas.
Parce que tu avais la bouche pâteuse.
Ben, parce que ça sentait le beurre d'épinard.
C'est dégueu. Ouais. Le lait aussi, ça sent pas bon, par exemple. C'est-tu plus que 70?
C'est 48%.
Ah,
peu près.
C'est moins, mon Dieu, OK. Ben, j'ai encore foi en l'humanité, là.
Ben, j'ai 48. Tiens, c'est 43%.
OK.
À peu près.
C'est pas si pire.
C'est pas si pire, mais en même temps, j'ai pas l'impression que tout le monde dit la vérité.
Ben, c'est parce que, sais-tu, c'était quoi mon calcul mental? Je me disais, le monde rush avec le portefeuille en ce moment, là. Les sous, ça revole pas par les fenêtres, là. Fait que je me disais, les gens vont avoir tendance à acheter moins cher. Ce qui est moins cher, malheureusement, c'est souvent ce qui est transformé et non frais. Fait que j'avais l'impression qu'on avait plus de malbouffe que ça dans nos armoires.
Mais tu sais, moi, je fais du sport et je m'entraîne justement pour pouvoir manger ce que je veux.
Oh, même place que toi.
À long terme, honnêtement, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner. D'après moi, ça peut être aussi pire parce que... autour, on en parlait, avec, je sais pas si c'était avec toi qu'on en parlait la semaine dernière.
Avec Vanessa Degg, nutritionniste.
Mais autour de l'abdomen, là, ça paraît pas bien, mais autour de l'abdomen, il y a une graisse qui se forme, puis ça s'en va autour de tes organes qui sont hyper importants pour la survie des gens. Mais t'as pas de l'air gros. Ça fait juste un petit gras, ça abadène extrêmement dur. Puis ça, ça a l'air que c'est le gras le plus dangereux. Fait que c'est pas parce que t'es mince que t'es nécessairement en santé. Puis on parlait des maladies cardiovasculaires. Par rapport à la malbouffe, il y a une nouvelle étude qui est sortie, en fait, qui paraît aujourd'hui, qui mentionne que pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, la malbouffe est responsable à 40 %.
On dirait que je suis zéro épatée. Pour mille une raisons, le sucre, le sel que tu vas retrouver dans ces aliments-là, c'est rien de ce qu'on mange de base, là, qui est non transformé. Là. Moi, au moins, on l'a appris comme ça, le transformé, non transformé. La malbouffe, ça rentre automatiquement dans ce qui est transformé. Moi, ça ne m'épate pas du tout comme chiffre parce que la majorité... Tu sais, quand on parle de remise en forme, on avait parlé avec Gabardi même du Tonic Gym et tout. La majorité de ta remise en forme, c'est l'alimentation. Uh-huh. Avant même de bouger, ça passe par là.
Les gars qui nous écoutent là, dans la construction, moi, je vous croise au dépanneur le matin. Là. Je vous vois acheter vos 3-4 canettes de Monster. Ben, j'ai fait partie de votre gang pendant un bout. Là. Moi, nous autres, dans le temps, dans la restauration, c'était du Red Bull. Je devais prendre 4 à 5 Red Bull par soir.
Oh mon Dieu.
Puis à la fin de soirée, au bar, on prenait Red Bull vodka.
C'est épouvantable.
Red Bull vodka canneberge de mémoire. Mais ça goûtait le ciel.
Mais c'est sûr, mais c'est tellement mauvais.
T'étais un peu chaud d'ail, puis t'étais allumé comme un rond de poing.
Ils ont banni les Four Locos pour ça.
Puis t'étais de bonne humeur.
Mais j'en doute pas que t'étais de bonne humeur.
Sauf pas qu'il était
bon
3 heures du matin.
Ouais, c'est ça.
Il y avait plus de musique, puis ta tête brassait encore. Mais les gars qui prennent des Monsters, c'est extrêmement dommageant pour la santé. Donc, l'étude dit que le tiers de tous les troubles cardiovasculaires, donc on est rendu à, mettons, 38 % survenu en 2019, est lié à la consommation de boissons, d'aliments ultra transformés. En chiffres, là, écoute, les chiffres sont malades. La malbouffe est derrière près de 100 000 nouveaux cas de maladie du cœur ou d'AVC et ça représente 17 000 décès par année.
Hey, c'est capoté quand tu y penses. Hein?
Je serais curieux d'avoir les résultats aux États-Unis.
Ah mon Dieu, ça doit être le double. Les autres, c'est... Tu le sens-tu, toi, quand tu traverses, quand tu manges là-bas? Moi, j'ai l'impression que tout goûte l'huile.
Quand je vais aux États-Unis?
Oui.
Écoute, c'est une bonne question, mais j'en profite pour manger ce que je veux. Quand j'étais en voyage, ouais, t'as raison, je dois manger très gras.
Ça goûte gras, ça goûte l'huile, ça goûte lourd, on dirait, contrairement à ce que nous on
mange. Puis de l'autre côté, si tu vas dans des restaurants, mettons des grandes tables, tu te dis tabarouette, il me semble que j'en ai pas assez pour ma faim. Tu sors de là, tu rêves juste d'aller au McDo pour compenser.
Pour combler.
Ouais. Mais c'est ça. C'est, pour ce qui est de l'apport énergétique, chez l'adulte, la malbouffe, ça correspond à 43%. Fait que les chiffres sont épouvantables.
Non, mais c'est gros, là. Puis c'est drôle parce qu'on a beau parler de ça, j'ai l'impression qu'on prend pas conscience.
Les
bars
tendres, c'est-tu de la malbouffe, Audrey?
Ben oui, c'est de la malbouffe.
Mais pourtant, bars tendres, ça a pas de l'air ultra violent, là.
Mais non, mais ça dépend ce que t'achètes, là.
Puis tu donnes ça comme collation aux enfants.
Ben oui.
Moi, ils ont des bars tendres à chaque jour. Là, il va falloir que je fasse quelque chose.
Mais là, t'en as, là, des bars tendres.
Il va falloir que je demande à quelqu'un de cuisiner des bars tendres.
Tu sais que c'est vraiment pas compliqué, Yann.
Audrey?
Je peux t'en faire.
Oui.
C'est facile, Yann.
Tu charges combien?
Je charge rien. Achète-moi de l'avoine, là.
Ouais, de l'avoine?
Ben oui.
Faut que je te paye de l'avoine?
De l'avoine, puis dis-moi ce que tu veux dans ta barre tente. C'est tellement facile à faire, Yann. C'est niaiseux, là.
Est-ce que du pain que tu achètes à l'épicerie, c'est-tu considéré comme de la malbouffe?
Ben là, j'oserais te dire oui, là. Encore une fois, t'as du bon pain puis du mauvais pain, là.
C'est lequel qui est mauvais?
Ben, parce que celui moi, qui est mauvais, c'est genre le pomme.
Bon, ben moi, c'est ce que j'achète.
Là, j'adore pomme en passant, là. Je veux pas détruire pomme, là. J'achète du pomme, là, mais tu sais, dans le sens que ça, c'est du pain blanc, ben.
Ben eux, ils appellent ça du pain industriel.
Voilà.
Donc,
exact.
Ce serait considéré comme de la malbouffe, alors que moi, je dois passer autour de trois pains par semaine juste pour moi.
Ah, mais là, faut que tu achètes des pains plus santé, là. Ouais. Moi, j'achète du pain au quinoa. Ça goûte pas le quinoa en passant, là, mais c'est protéiné puis tout, c'est super bon.
Juste quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que ça goûte la marde.
Mais je comprends. Hey, mon chum est pareil comme toi.
Mon
c'est
pain
fou.
Pomme, il a de l'air vraiment intéressant. Puis là, j'arrive dans l'allée, puis là, je vois mon pain, il m'appelle. Puis là, je prends tout le temps comme le pain en arrière.
Ouais.
Parce que je me dis, ils n'ont pas fait la rotation.
Oui, il est plus frais.
Ou ils l'ont fait. Fait que celui-là en arrière, il est plus frais. Là, je pèse dessus, il est tout mou, puis je me dis, ça, c'est santé pour moi. Puis aujourd'hui, dans le journal, on me dit que le pain industriel, c'est considéré comme de la malbouffe. Est-ce que les viandes froides, c'est considéré comme de la malbouffe?
Oui.
Est-ce que les soupes instantanées, c'est considéré comme de la malbouffe?
Absolument.
Ouais, t'as-tu l'article dans ta face, toi?
Zéro pin bar. J'ai juré sur ma tête, je suis allé chercher le pain pour te donner en marque. C'est du Saint-Méthode.
Que tu manges, toi?
Oui, absolument. Le Saint-Méthode, puis c'est le quinoa. C'est vraiment. Eux autres, ils ont plein de bons pains santé protéinés, là, puis c'est vraiment bon.
Es-tu en surpoids?
Ben là, s'il te plaît.
Ben là.
S'il te plaît. J'ai perdu 6 livres, tu sauras depuis le début de l'année. Je suis très fière.
Les saucisses hot dog, c'est-tu considéré comme de la malbouffe?
Ben oui, c'est des restes.
J'ai l'impression, Audrey, que je t'ai mentionné tout ce que j'ai mangé depuis le début de la semaine.
Mais j'en doute pas pendant
tout. Il manque rien.
Mais moi, la question encore, je te le répète, c'est-tu transformé ou pas? J'ai comme l'impression que la barre est vraiment là. Puis quand tu choisis des aliments transformés, ben c'est parce qu'à quel point la liste d'ingrédients est longue ou pas. Tu sais, c'est ça que Vanessa nous expliquait la semaine passée, là.
Ouais.
Si t'as 25 ingrédients là, sur l'affaire que t'achètes, ben pose-toi des questions, c'est pas tout à fait bon pour ta santé. Si t'as 5 ingrédients parce que c'est transformé, mais c'est avec des ingrédients que tu connais puis que tu reconnais, ben probablement que ce que tu consommes est bon.
Là, il y a plein d'auditeurs qui nous écrivent. On va faire les auditeurs, puis après ça, on va devoir partir en musique, les amis. C'est pas compliqué. Pratiquement la totalité de ce qu'il y a dans le milieu des épiceries sont des produits transformés, donc de la malbouffe. Max qui dit « Marceau, je me méfierais d'Audrey Pinchot. Qui veut te faire des barres tendres? Demande à Denis le potage. » À Audrey, il goûtait quoi?
Là, ça va être correct, là. La soupe et des barres tendres, c'est pas pareil. Dans le sucré, je suis une queen.
Martin qui essaie de négocier. On s'entend-tu que les barres tendres, c'est moins pire que de la bouffe au McDo?
Ah ben oui, mais là, il y a ça aussi. Là.
Tout c'est... peut ne pas être de la malbouffe. Tout peut pas être de la malbouffe.
Non, mais ça, c'est... puis il y a raison, il y a 100% raison, mais c'est juste gars, une question d'équilibre aussi.
On sent
là.
De la résistance.
Ben oui, il y a de la résistance.
J'aime ça, de la résistance. Tous les pains tranchés sont des pains remplis de sucre. Il faut goûter un vrai pain français pour voir ce qu'on consomme.
Ben non, mais un vrai pain Jennifer. À Mimi. Je veux dire, moi, ma grand-mère a fait son pain maison, puis... Tu vois la différence là, entre du vrai pain frais, du bon pain chaud.
Olivier qui dit, gang, l'application Yuka est super pour ça. J'ai raté ta blague.
Mais oui, t'as raté ma blague, elle était tellement bonne.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ben là, ça se répète pas, c'est plus drôle.
Vas-y.
Là. J'ai fait une joke de pain chaud. Écoute-moi la prochaine fois, tu vas pogner.
Faites un test dans le futur. Comparez le goût d'un repas McDo au Canada, États-Unis et Mexique. C'est frappant l'écart de goût entre les pays, mais ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on s'ajuste un peu au pays où on est rendu. C'est normal que, exemple, en Chine, ça goûte pas la même affaire qu'un McDo ici.
Les menus sont différents aussi. Là. Quand je suis allé au Portugal, tu avais des bols de salade de pâte avec fromage de chèvre. Ouais. T'as pas ça ici. Là.
Au Canada, ça goûte pas mal toute la même affaire chez Ronald. Pis c'est vrai qu'aux États-Unis, ça goûte différent. Mm. Je sais pas pourquoi. C'est-tu les patates qui sont pas...
Je me suis demandé si c'était, pas, c'était l'huile ou la quantité de sel qu'on mettait. Le pire, c'est que normalement, McDo a des règles. T'es censé avoir le même nombre justement de sel puis les mêmes produits de base, mais c'est sûr que dépendant d'où t'es, ça change. Là.
Et on va terminer avec cette citation d'un grand philosophe dont j'ai pas son nom, mais son numéro de téléphone finit par 22. « Arrêtez de dire que manger une saucisse, c'est de la malbouffe. Ma blonde va s'en servir contre moi.
» C'est très bon. Hey!
Quoi?
Je veux juste te dire rapidement que sur la Capitale-Est,
oui.
L'accès au boulevard des Chutes est partiellement travaillé. Il y a une sortie de route en ce moment, là.
Parfait. Merci. On s'en va avec Jean Leloup. Après ça, c'est sport avec Max. Voici Voyageurs sur boulevard.
Sombre est ta solitude de voyage.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
C'est confortable sur Québec, on a un genre de 3 degrés. Est-ce qu'il y aura de la neige ou de la pluie de prévu aujourd'hui? On va aller voir ça tout de suite. 60% de probabilité d'averse, c'est ce qu'on nous mentionne. Peut-être un peu plus de nuages en après-midi. Température stable à près de plus 4 degrés. Ce soir, des averses de pluie qui devraient se changer en neige vers les alentours de minuit. minimum de zéro. Demain, mercredi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige avec un maximum de plus 3. Donc, on est dans le plus, Audrey.
Et c'est ça que j'allais dire. Il faisait tellement chaud ce matin, ça fait différent du moins 30 qui faisait mal à la face la semaine passée.
La neige va fondre, puis j'ai un peu de déneigement à reprendre parce que, tu sais, il y a des endroits que tu déneiges pas là, quand il y a des grosses bordées, surtout quand tu es à appel. Là. Moi, chez nous, j'ai le contrat qui est donné pour ce qui est du stationnement, mais le reste, les escaliers et tout ça, c'est mon oncle qui fait ça.
Oui, mais là, mon oncle devrait se dépêcher parce que la température qu'il fait, s'il pleut, ça va geler.
En arrivant ce soir, c'est exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire cesser de négliger mon déneigement.
De repousser.
Je sais pas si ton père est de même ou si ton chum est de même, mais tu sais, à un moment donné, là, tu veux que tout soit parfait. Là.
Oui. Oui, mais nous autres, c'est de même.
Là, t'as comme le sentiment du devoir accompli mais quand tu t'es fait.
On est chanceux parce que je serais hypocrite de dire qu'on s'en occupe tout le temps. On a un voisin exceptionnel. Nous autres, on est en jumelé.
Ouais.
On a un voisin exceptionnel qui, quand il fait son bord, il fait le nôtre. Fait que c'est comme un... On a la job à 50 % nous autres.
Okay. Puis admettons qu'il faisait juste son bord.
Ça serait correct.
Est-ce que vous feriez votre petite trail là, sur vos marches juste avec vos pieds, là?
Moi, il y a de fortes possibilités. Mon chum fera en sorte à un moment donné que ça ne soit plus le cas.
Ouais, j'ai habité dans le secteur
j'ai
de
pas le choix de te dire.
J'ai habité dans le secteur de Limoilou. Puis à Limoilou, il y a des escaliers en colimaçon. Il y a de beaux escaliers aussi qui sont assez larges quand c'est un immeuble, mettons, à deux logements.
Ouais.
Puis souvent, tu as le locataire de droite qui fait son bord de droite. Puis le locataire de gauche, lui,
ça fait trois jours
qu'il n'est pas là. Fait que ça, c'est pas fait. Puis quand il arrive, la petite trail est faite de son bord d'escalier.
Mais moi, j'appelle ça du bon voisinage. Ah. Si tu fais ton bord, fais celui de ton voisin. Maintenant, ton voisin va le faire pour toi aussi.
Ouais. On rêve tous de voisins comme tes voisins, toi.
Ah, ils sont extraordinaires.
Parce que visiblement, toi, je ne voudrais pas que tu sois ma voisine.
Salut Guillaume, je salue Denis, je salue Robert. Ils sont extraordinaires.
Il reste les trois ensemble.
Non, c'est les trois qui m'entourent.
OK.
Puis tu sauras que je serai une très bonne voisine. C'est arrivé en retard dans ma tête, là, mais je t'ai entendu.
OK. Du 6 au 9 mars, il y a quelque chose de le fun qui se passe au Diamant de Québec. On présente le spectacle Kintsugi. C'est un spectacle idéal pour toute la famille en passant. Puis c'est surtout que c'est pendant la semaine de relâche. Donc c'est présenté par la compagnie québécoise Machine de Cirque. Et ça se déroule autour d'un abri d'autobus qui a des rencontres, où il y a des rencontres inattendues avec des acrobaties qu'on dit vertigineuses. Et il y a même de la suspension par les cheveux. Il y a du trapèze, il y a du mât chinois, le main à main, des acrobaties avec des ballons aussi. Et c'est en première au théâtre Le Diamant, le Kintsugi qu'on appelle du 6 au 8 mars. Donc c'est pour les 20 ans et moins. C'est 20 $ tout inclus. Le billet pour adultes à partir de 32 $ tout inclus. Billet sur lediamant.ca, lediamant.ca. Détails et programmation. Allez faire un tour sur diamant.ca. Programmation. Kintsugi. Rendez-vous aussi sur blvd.fm, section concours, pour gagner deux billets adultes et deux billets pour enfants pour la représentation du samedi 8 mars à 11h. Donc, ça va être une belle activité à faire. Puis, pendant la semaine de relâche, il y en a qui réussissent à aller dans le sud. Là. La mère de mes gars amène mes deux gars au Bahamas.
Oh, wow! Okay. Est-ce qu'ils réalisent comment ils sont chanceux?
Je le sais pas.
Parce qu'il n'y a pas grand kid qui s'en vont Bahamas pour la relâche.
J'ai l'impression qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont chanceux quand il y a un ou deux qui s'en va là-bas sans eux.
Je comprends.
Un genre de « Pourquoi tu nous amènes pas?
Ouais.
Aimes pas? »
Et là, c'est leur tour. C'est le fun. C'est
leur tour. Fait qu'ils vont partir là-bas. Puis sinon, si vous voulez faire des activités à Québec, il y a le village nordique au port de Québec. Puis il y a au Diamant, il se passe des trucs super le fun. Hey, un sujet très le fun avec une invitée qu'on aime bien, Natacha Barrette, qui est avec nous. Vous l'avez entendue en tant que vétérinaire.
Exactement.
Ça n'a pas changé. Elle est toujours vétérinaire. Mais elle a une particularité, Natacha. En fait, elle en a deux. Elle a la douance, puis elle est autiste aussi.
Oui, donc, double la douance, exceptionnalité.
Exact. La douance, c'est, on dit, haut potentiel intellectuel.
Exact.
Et quand elle est venue la dernière fois, elle nous avait parlé de ça, puis on s'est dit, tiens, on va en parler, parce que dans l'actualité, c'est revenu un peu sur cette histoire de haut potentiel intellectuel. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient mal à l'aise avec des gens qui disaient qu'ils étaient HPI.
Bien, c'est parce qu'il y a tellement de préjugés, tu sais, surdoués. Ah, ben oui, cette personne-là doit être super intelligente, comme si tu tirais un rat, mais c'est parce qu'il y a des conditions qui viennent, veux pas, avec le fait d'être HPI. Là.
On peut-tu faire un lien avec ceux qui parlent ouvertement de leur argent? Tu sais, Luc Poirier, il n'y a pas de problème
comprends.
À montrer son entrepôt avec des voitures de luxe. Sa conjointe a participé à une émission où les filles parlaient que de luxe et que d'argent. Et ça faisait beaucoup jaser. Puis il y a des gens qui étaient fâchés de ça en disant « Mais voyons donc. »
Mais c'est tabou.
C'est tabou. Mais c'est-tu de la jalousie?
Ben, je pense pas que tu peux... Ben, on posera la question à Natacha, mais je pense pas que tu peux être jaloux d'une douance dans la mesure où ça vient avec son lot, j'imagine, de je vais appeler ça des inconvénients, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais ça vient avec son lot de négatifs aussi, j'imagine, dans le sens que j'ai l'impression qu'on voit ça super beau, comme si t'avais un QI élevé, puis t'étais plus intelligent, puis meilleur, puis... Mais je sens que c'est pas que ça de ce qu'on m'a expliqué, puis je m'y connais pas beaucoup en douance. C'est sûr qu'on connaît plus l'autisme que la douance, mais je pense que ça va être l'occasion d'en savoir un peu plus, puis ça touche environ 2% de la population.
Allons-y, Natacha Barrette, salut!
Allô!
Très content de te voir en studio avec nous, avec ton ami chien.
Ben oui, Babette est là pour m'accompagner.
Ben oui, elle pourra nous jaser si elle le désire. Est-ce que le haut potentiel intellectuel, quand tu parles de ça, est-ce que tu as une certaine réceptivité de la part des individus? Puis est-ce qu'il y en a qui se sentent mal à l'aise quand tu parles de ça?
Bon, je comprends pourquoi les gens ont un malaise. Parce que ça donne l'impression qu'on veut se vanter de quelque chose qu'on n'a pas choisi, ceci dit. Puis c'est aussi parce que les gens pensent beaucoup que le HPI, la douance, c'est des génies. Mais il faut savoir que la majorité des gens doués, c'est monsieur, madame, tout le monde. Mm. Là. C'est des gens qu'on côtoie dans notre quotidien. Si on calcule 1 à 2 % de la population, ben, tu sais, vous en connaissez toutes, à part moi, au moins peut-être un, sinon plus. Ouais. Ces gens-là le savent peut-être même pas. Là.
J'aime ça ce que tu dis, Natacha, parce que j'ai lu une statistique qui disait que c'était 12 % seulement des doués qui vont arriver au top de quelque chose. C'est des fois, on a l'impression que je vais prendre Elon Musk en exemple ou n'importe quel Facebook, Meta, ceux qui sont au sommet des grandes entreprises, comme si c'est tous des gens qui nécessairement ont une douance ou un... Mais c'est seulement 12 % des doués qui vont arriver à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Là.
Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est doué. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on va... Je vais mettre une petite nuance tantôt, là, mais on est avec ces circuits de neurones qui nous amènent à avoir une capacité différente. Mais là, après ça, encore faut-il que l'environnement dans lequel on va naître nous permette de développer ça. Si je donne l'exemple, on va oublier le Québec, là, parlons du monde entier. Là. Assumons que c'est la même statistique partout dans le monde, là, de 1 à 2 % bien, c'est sûr que là, si on est doué puis qu'on est dans un pays qui est en temps de guerre, il y a peut-être moins de chances qu'on puisse se catapulter, si je peux le dire ainsi, grâce à notre douance. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais les paramètres dans lesquels on va évoluer vont peut-être moins favoriser. Tu sais, l'accès, par exemple, à la scolarité dans certains pays, surtout pour les femmes, est difficile. Fait que, tu sais, ces personnes-là, peut-être de façon autodidacte, ont une certaine capacité à aller se développer, mais il y a clairement des enjeux des embûches qu'ils vont rencontrer.
Puis est-ce que tu as l'impression que nous, au Québec ou encore au Canada, en Amérique, on a trouvé les façons de faire pour exploiter vos forces? Quand on découvre un individu qui est atteint de douance, à mes yeux, à moi, on devrait le mettre avec d'autres personnes qui sont atteintes de la même affaire, les faire travailler ensemble, puis peut-être qu'on pourrait faire élever tous ces gens-là. Je sais qu'en Chine, ça se fait, c'est pas le meilleur pays du monde, la Chine, là, mais les gens extrêmement doués sont réunis ensemble parce qu'ils considèrent que ceux qui ne le sont pas, bien, ils ralentissent les gens qui sont extrêmement doués. Ouais. Parce que de ce qu'on comprenait en faisant les lectures concernant le HPI, c'est que tu pouvais comprendre tout de suite quelque chose qui pouvait être compliqué et très, très abstrait pour certains individus. Fait que toi, pendant ce temps-là, tu faisais rien, tu faisais juste attendre.
Mm-hmm. Faut pas tomber non plus dans l'élitisme, parce que là aussi, on va amener certains préjugés envers les gens doués. Mais je comprends là où tu veux aller avec ça. Moi, je vais donner mon opinion. En passant, je ne suis pas une neuropsy ou une psy ou quelqu'un habilité vraiment à parler en tant que professionnel. Là, je parle en tant qu'individu, moi, Natacha Barrette, ce que je pense. Bien, moi, je pense qu'effectivement, si un cerveau doué est mis dans un environnement qui favorise de développer sa douance, parce qu'on n'est pas toujours doué dans les mêmes affaires non plus, hein. On peut être une personne douée que ce n'est pas nécessairement au niveau de ses capacités cognitives. Ça peut être, par exemple, une personne douée pour l'art. Je vais donner un exemple. Là, je vais plus donner un exemple du côté de l'autisme, mais il y a des autistes qui sont non-verbaux, donc qui ne s'expriment pas par des mots, mais qui vont être capables de chanter ou jouer de la musique d'une façon exceptionnelle, là, tu sais. Fait que ces choses exceptionnelles, si on donne l'environnement pour que ça se développe, ouais, c'est sûr qu'on va aider l'individu à se catapulter plus loin. Tandis que si on laisse la même personne, mettons la personne douée, dans un environnement peu stimulant, qui ne favorise pas son développement, bien, elle va s'emmerder probablement. Elle va peut-être faire du trouble dans la classe. T'sais, des fois, c'est drôle à dire, mais les étudiants qui sont doués ne sont pas nécessairement ceux qu'on aurait cru au départ. T'sais, des fois, ça peut être le ou la petite tannante du groupe là, qui dérange tout le temps, mais c'est parce que cette personne-là, elle est dans une classe qui ne lui convient pas. Mais il faut faire attention de ne pas non plus mettre sur un piédestal les gens doués. Ça demeure des humains comme d'autres. Puis, comme tu le disais tantôt, Audrey, ça vient avec des défis aussi, des défis particuliers.
Ouais.
Ça reste des êtres humains. Fait que, tu sais, si on n'encadre pas bien un élève doué...
Ça peut virer à
dans les autres, ben c'est ça aussi. Ouais.
Comment tu l'as découvert, toi?
Ben moi, j'ai un parcours qui est commun chez les gens de mon groupe d'âge. Moi, je suis une femme de 55 ans et je sais que je suis autiste depuis l'âge de 53 ans. Donc, c'est très récent. 52, pardon. Donc, ça reste que c'est quelques années, mais je sais depuis toujours que je suis différente.
Ça a-tu été une libération quand tu as le diagnostic?
Le jour et la nuit.
Ouais. T'as compris
bien les
affaires.
Je suis une nouvelle personne. Ouais. Là, je comprends. Avant, là, je me sentais une personne différente, mais négativement. Tu sais, je me sentais comme brisée un peu. Je
pas
me sentais...
comprise?
Bien, je me comprenais pas moi-même, tu sais. Fait que c'est très anxiogène, à un moment donné, de pas comprendre pourquoi on est comme ça. Puis là, à partir du moment où j'ai su, puis que quelqu'un me l'a confirmé. Moi, j'ai senti le besoin d'avoir une confirmation officielle d'un psychologue. Mais je comprends qu'on n'a pas tous le même parcours ni les mêmes finances, parce que ça, c'était au privé. Mais quand il me l'a dit, là, c'était comme une délivrance. Et enfin, je comprends et j'accepte. Ça n'a pas été immédiat, là, mais là, je comprends et j'accepte que j'ai des besoins et des limites différents des autres. Puis j'accepte de vivre dans un cadre différent. Avant, je m'imposais des choses parce que je voulais être comme tout le monde. Je voulais pas que ça paraisse. T'sais, c'était pas toujours conscient, ceci dit. Mais je travaillais fort pour me fondre dans la masse. On nous appelle souvent les femmes caméléons, en passant, parce que justement, on veut être comme tout le monde. Fait que, t'sais, on va se moduler pour répondre aux besoins de la société. Mais il y a un prix à payer pour
ça. Ça crée un mal-être, j'imagine.
Un mal-être, une perte de qui suis-je, finalement. Parce que là, on vit pour les autres plus que pour nous. Puis pour la douance, juste pour finir la question de Yannick, la douance, j'ai pas été chercher une évaluation officielle, mais parce que c'est comme toutes des évaluations différentes. Là. Tu sais, quand on évalue l'autisme, on n'est pas en train d'évaluer la douance. C'est comme des tests séparés. J'ai eu un test de dépistage qui était quand même suspect, là, tu sais, qui était compatible, mais je n'ai pas été faire tout le processus. Cependant, ma psychologue avec qui je travaille depuis un an et demi est aussi neuropsychologue. Puis elle fait de l'évaluation de douance. Puis il faut comprendre que la douance, ce n'est pas qu'un QI. C'est un mode de fonctionnement. C'est une façon que notre cerveau va organiser l'information, va réfléchir, va fonctionner. Puis elle m'a confirmé, parce que moi, je m'auto-identifiais comme douée. Je disais, ça ne fait pas de sens que je sois juste autiste. Il y a plus que ça. Je le savais. Je lui avais dit. Elle ne m'en a pas reparlé, mais elle m'a dit, il n'y a pas si longtemps, tu sais que pour moi, t'es douée. Tu sais, on n'aura pas à faire les tests parce que ça va... Tu sais, ça fait un an et demi là, qu'elle me fouille dans le cerveau, façon de parler. Là, elle voit là, comment je fonctionne, comment je réfléchis.
Elle t'a comme un peu auto-diagnostiqué. Elle t'a diagnostiqué sur le site sans faire toute la batterie
ben,
de tests évaluant depuis un an et demi. Là.
Qu'est-ce qu'elle aurait fait de différent, en fait? Elle aurait fait ben, peut-être pas la même chose, mais elle est à même de voir les traits que je manifeste.
Fait que c'est ça la double exceptionnalité, oui. En fait, c'est d'avoir, mettons, douance, mais avec un trouble supplémentaire. Par exemple, j'imagine oui. que TDA rentre là-dedans.
Oui. Dans le fond, la double exceptionnalité, ben, premièrement, je veux juste dire que exceptionnalité, ça vient de l'anglais. C'est En anglais, ça n'a pas la même connotation. C'est quand on dit que quelque chose est exceptionnel en anglais, on dit juste qu'il est en dehors de la norme, il est exceptionnel. Alors que nous, je ne sais pas si c'est juste les Québécois ou si c'est toute la francophonie, nous, quand on dit que quelque chose est exceptionnel, c'est un superlatif, là. C'est quelque chose d'au-dessus de. Mmh. Fait que c'est là, des fois, que ça peut donner l'impression que je me vante. Tu sais, je suis doublement exceptionnelle. Je ne me vante pas pantoute. J'utilise la nomenclature appropriée, c'est tout.
Mais il n'y a jamais une femme qui me dit ça à moi que je l'étais, là. Ouais. Exceptionnelle, mais... Un jour peut-être. T'as dû évoluer dans un monde extrêmement cruel. Tant aussi longtemps que tu n'avais pas ton diagnostic d'autisme.
Je dirais pas cruel, hostile.
Ouais.
Tu sais, tu comprends pas tes réactions, tu comprends pas les réactions des gens. Tu essaies fort de t'améliorer, de faire les choses autrement. C'est toujours pas ça. Tu sais, il y a des enjeux, puis ça devient... Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des comorbidités d'anxiété et de dépression.
Ouais.
Parce que, surtout quand, comme moi, j'ai été diagnostiquée à 53 ans, là, hey, ça fait un méchant bout là, que j'essayais de comprendre. Puis j'essayais, tu sais, je lisais. Moi, je suis passionnée de psycho, puis de tout ce qui... Tout l'être humain m'intrigue, ouais. Je veux comprendre, mais j'avais toujours pas trouvé la clé.
Mais les jobs, les interactions sociales, les relations amoureuses,
ouais,
toi, tu fonctionnes différemment.
Oui. Puis maintenant que je le sais, je suis capable de nommer ces choses.
Tu peux être plus clémente envers toi-même.
Ah,
aussi,
Seigneur, oui. Avant, je me sentais différente, mais je me sentais surtout anormale, mais vraiment dans le négatif. Là, je sais que je suis en dehors de la norme, mais dans les faits, je suis normale quand même. C'est qu'il faut comprendre que la population, on va dire qu'il y a 90... Bon, c'est pas vrai. Il y a 80 % de la population qui est neurotypique, qui n'est pas ni autiste, ni doué, ni TDA, tu sais, qui a aucune, mettons, étiquette de ce genre-là. Et la société, ben, elle a été bâtie par ce 80 %-là. C'est la majorité. Fait que, tu sais, tout est pensé globalement pour permettre à ce 80 %-là de bien fonctionner. Puis eux, ils n'ont pas de misère à fonctionner. Mais le 20 %, qui est tout un amalgame de plein de choses, ben lui, il faut qu'il s'organise pour fonctionner. Mais c'est pas... chacun a ses défis. C'est pas... On est tous différents. Même si on est autiste, deux personnes, on va être très, très différents quand même. Là.
De par ma job, je fouille beaucoup dans la vie des gens. Là. Est-ce que t'avais dans ta famille, il y avait des gens qui étaient comme toi? Est-ce que tes parents avaient été de haut potentiel intellectuel aussi, autistes?
Je suspecte fortement que mon père a le même profil que moi. Il a fait aussi le même métier que moi. Il était vétérinaire aussi. Mais je regarde, tu sais, dans sa façon, mettons juste son langage de l'amour que nous, on appelle là, le love language. Lui, c'est le partage d'informations. Moi aussi, j'ai ce langage de l'amour-là. Je veux partager ce que je sais avec les gens que j'aime parce que j'ai comme l'impression de leur faire un cadeau, puis tout ça, sauf que des fois, c'est too much, là, tu sais. Là, des fois, je peux parler non-stop, puis même oublier de laisser l'autre parler, puis je peux parler infiniment d'un sujet là, qui m'intéresse. Fait que mon père, ben lui, c'est un peu ça. Lui, il nous envoie des TikTok. On a fini par faire un groupe dans la famille pour qu'il nous envoie les TikTok. Et il nous en envoie beaucoup, je peux vous le confirmer. Mais lui, c'est son langage, l'amour, parce qu'il voit ça puis il se dit « Oh mon Dieu, que c'est utile! Oh, que c'est pertinent!
Et tu remarques des similitudes. Je vais le partager! »
Ben, c'est un petit mini-exemple, on s'entend, là. Mais il reste que lui, il fait ça pour, tu sais, vraiment partager son savoir avec d'autres personnes.
Puis, mettons pour les auditeurs, parce que là, on a des questions qui entrent à travers ça, là, je prendrai le temps de te les poser, mais juste pour qu'on puisse savoir à la gang, pour les gens qui entendent parler de la douance dans les premières fois, là, et puis qui peut-être suspectent quelqu'un dans leur entourage, ou si on parle de, je vais les appeler les symptômes, là, mais tu parlais de réactions tantôt, c'est quoi ces réactions-là ou ces façons de penser différentes-là? Qu'est-ce qui fait que tu peux te douter peut-être que tu as une certaine différence?
OK. Je peux peut-être plus parler de moi. Bien, c'est pas que je veux parler de moi, mais moi, je suis quand même assez représentative aussi, là. Moi, il faut savoir, comme je disais tantôt, que je suis douée et autiste. Puis je veux juste expliquer une chose, c'est que pour l'instant, on voit ça comme deux compartiments différents. Mais dans les faits, l'amalgame des deux fait que je suis pas juste doué, pas juste autiste. Fait que je peux pas, je tiens à l'expliquer comme ça, parce qu'un jour, peut-être dans 15 ans, 20 ans, ça n'existera plus le terme double exceptionnalité. Ils auront trouvé un nouveau mot qui va finalement être la contraction des deux. Fait que je donne tout le temps l'exemple, tu sais, imaginez que la douance, c'est la couleur jaune, puis que l'autiste, c'est la couleur bleue. Bien, si on les mélange, ça fait du vert, puis le vert, bien, c'est ni du jaune, ni du bleu. C'est pas exactement... Tu sais, moi, je suis l'ensemble des deux. Fait que je vais parler de ma réalité. Ça se peut que ça résonne avec certaines personnes, puis ça se peut qu'ils ne s'identifient pas vraiment parce qu'ils ne sont pas de couleur verte comme moi, là, façon de parler. Mais il y a quand même des petits indices qui peuvent, des fois, leur faire allumer des lumières. Puis en passant, là, il ne faudrait pas que tous les auditeurs pensent qu'ils sont autistes parce que je parle d'autistes, parce que je vais dire des choses que les gens vont dire « Hey, moi aussi! » Mais peut-être que tu as ce trait autiste, ce trait qu'on attribue aux autistes, mais c'est le seul. C'est une constellation de choses qu'il faut avoir pour être un autiste. T'sais, c'est pas juste une chose. Fait que moi, dans le fond, dans mon mode de fonctionnement, premièrement, j'ai une pensée qui est riche, foisonnante et qui est arborescente. Ça veut dire que si je pense à quelque chose, c'est jamais simple. Je pense pas à une chose, je pense à des choses. C'est, tu vas évoquer quelque chose, mettons, puis moi, mon cerveau s'emballe, puis il part dans toutes les directions, il fait des liens avec des choses du passé, du présent, du futur, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, et tout ça dans un très court laps de temps. C'est le fun. Mais les autres ne fonctionnent pas comme ça. Fait que ça peut tomber sur les nerfs, ça peut déranger parce que l'autre personne n'est pas rendue là, puis elle ne comprend pas que toi, tu y sois. Après ça, ça peut être épuisant parce que là, j'ai pas un interrupteur on-off pour ça. Fait que c'est sûr que ça peut être cool dans certaines circonstances, puis dans d'autres, ça m'épuise parce que j'ai rarement du repos mental. Je suis très hypersensible autant physiquement qu'émotionnellement. Donc, les hypersensibilités de nature plus physique, c'est auditif. Donc, il y a eu des périodes de ma vie où aller dans un lieu où il y avait du bruit, ça m'épuisait. Je ne sais pas combien de fois, à un moment donné, dans une période où j'allais moins bien, je me rendais dans le stationnement de l'épicerie. Puis j'étais tellement épuisée de juste m'être rendue là et de penser que j'allais devoir être dans un milieu où il y aurait du bruit et de la lumière, que je revirais de bord.
Parce que tu ressens plus fort le bruit?
Tout, oui. La lumière, il y a des sortes de lumières, des néons, là, ça, c'est l'horreur. Aller dans un centre d'achat, horrible, je veux mourir.
Une pharmacie.
De la torture. Ah, ouais. Dans l'ascenseur qui monte là, chez moi, je me ferme les yeux. Je m'en étais jamais rendu compte.
Ah oui, puis
là, je suis comme, pourquoi tu te fermes toujours les yeux? Et là, je me suis rendu compte, ben oui, c'est vrai.
C'est deux gros néons, là. Ouais.
C'est deux gros néons, mais je me ferme les yeux à chaque fois. Puis, tu sais, c'est instinctif, mais c'est ça. Je peux pas porter de bijoux. J'en ai déjà porté, mais là, je suis plus capable, sauf au niveau du nez. J'arrive à l'oublier. Mais si j'ai des bijoux ailleurs, j'y pense tout le temps. C'est comme si je suis tout le temps en train... J'arrive pas à faire abstraction. Les vêtements, je suis incapable de porter des vêtements serrés. Je vous parle même pas d'une brassière, qu'est-ce que ça me cause. C'est un instrument de torture. Bref, physiquement, j'ai plusieurs hypersensibilités. Puis émotionnellement, j'ai beaucoup de difficultés à réguler mes émotions. Tu sais, je peux partir en peur, comme je dis des fois, pour pas grand-chose. Yannick en a été témoin. Bien, c'est très... Ça vient me chercher. Puis je vis, moi, rarement une seule émotion. Je vis des émotions. Parce que l'espèce de pensée arborescente, là, quand ça s'ouvre, cette pensée-là, ça va autant jouer des fois dans un beau souvenir que « Oh mon Dieu, les humains, ils sont rendus donc bien méchants. » Puis là, oups, ça part dans une autre direction ou un autre. Puis là, je me ramasse avec un amalgame de plein d'émotions qui me submergent. Moi, j'appelle ça un tsunami. Puis qui peut me prendre 2-3 jours à m'en remettre. Je peux faire ce qu'on appelle un meltdown. Un meltdown, c'est quand je suis trop surstimulée, peu importe qu'est-ce qui vient me chercher. Là, à un moment donné, ça dépasse ma capacité, puis il va y avoir une seule petite goutte d'eau qui peut être un commentaire sur Facebook et qui va faire que moi, là, ça peut être banal, ça peut être innocent à la limite, mais moi, là, plus les hypersensibilités sensorielles, plus je suis peut-être fatiguée d'avoir eu des interactions sociales, etc., etc. Et là, je vais m'écrouler littéralement et je vais pleurer ma vie comme si c'était la fin du monde. Moi, c'est ma fin du monde. Puis là, après ça, je vais souvent faire ce qu'on appelle un shutdown. Je vais me replier sur moi. Je vais être quasiment comme un végétal où je vais avoir de la misère à me faire à manger. Je vais avoir de la misère à fonctionner. Puis je voudrais pas voir d'humains pendant ce temps-là. C'est comme trop me demander. Puis après ça, oups, je reprends pied. Puis là, ben, ça peut avoir duré une journée, une semaine, un mois, une vie. Parce qu'il y en a des gens qui sont, surtout ceux qui ne se savent pas autistes, qui sont constamment...
Ouais. Les interactions sociales, ça peut ressembler à quoi? Ta relation avec tes collègues de travail, la relation avec les patrons, ça doit être compliqué. Là, aujourd'hui, tu as tes réponses, mais ça devait être compliqué au début de ta carrière, tu étais vétérinaire.
C'était compliqué parce qu'entre autres, je suis très, très dérangée par les injustices. Mais c'est viscéral, là. C'est comme, ça vient tellement me chercher que ça peut me faire des meltdowns, même si ça ne me concerne pas, là. Les injustices de la société, ça, c'est une des pires choses. Puis là, ben, dans un milieu de travail, il y en a toujours des injustices. Celles qui m'atteignaient moi, là, ben, honnêtement, je pouvais choisir de les ignorer. Mais celles que j'étais témoin des collègues, des amis, des gens qui n'avaient peut-être pas la possibilité de parler. Moi, je tiltais littéralement. Je me suis mis dans le trouble.
Ça fait-tu partie des raisons pour lesquelles tu as décidé de travailler seule à un certain moment?
Ça peut faire partie, mais je dirais que je pense que c'est surtout que je voulais trouver un moyen d'accommoder mes différences au niveau, justement, gérer les émotions, gérer l'énergie. C'est aussi beaucoup ça.
Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas personnel, mais quand tu dis que tu t'es mis dans le trouble?
Ah, bien, à un moment donné, un matin, une collègue a été, je dirais, rabrouée par une autre, puis elle s'est mise à pleurer, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui était très, très dévoué à son travail, qui tu sais, elle avait que des belles qualités tant qu'à moi, puis je trouvais ça d'une grande injustice qui lui était dit. J'ai pas fait ni une ni deux, j'ai pas réfléchi, et je suis montée en haut à la direction, et j'ai dit, là, non, ça va pas, puis là, j'étais en... colère, tu sais. Mais cette même personne-là me l'aurait dit à moi que fort possiblement, j'aurais rien dit. Puis j'aurais ravalé parce que c'est ce qui est aux autres qui me touche.
Je comprends. As-tu développé des stratégies ou des mécanismes d'adaptation?
Ah, mon Dieu! Je suis un mécanisme d'adaptation sur deux pattes. Je suis née autiste. Moi, le jour 1 où je suis arrivée dans la société, j'étais une autiste. Fait que inconsciemment, c'est pas conscient là, que je l'ai fait, j'ai commencé à essayer de fonctionner dans un milieu qui m'était hostile. On m'a dit de moi que j'étais un bébé alcoolique. Aujourd'hui, je me dis, ah, OK, peut-être que déjà à ce moment-là, les surcharges sensorielles se manifestaient de cette façon-là. Bref, à l'époque, on ne savait rien de l'autisme, là, fait que ça n'a pas... sonner des cloches, mais il reste que mon parcours de vie a été toujours de m'adapter. C'est pour ça qu'on dit les femmes caméléons. C'est toujours de... On cherche à fitter dans la société. C'est naturel. Là. N'importe qui, même les personnes qui ne sont pas autistes, là, ils veulent fitter dans la société, ils ne veulent pas se démarquer. Mais nous, c'est encore plus important. Puis c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus justement qu'est-ce qui est la vraie personne ou la personne version modifiée pour les autres. Puis il faut se retrouver. Quand on apprend notre diagnostic d'autisme, là, on regarde notre parcours de vie, là, puis on en a des deuils. Là. On en a des deuils. Puis, mais on comprend. Là. On comprend, ah, OK, c'était pour ça. Ah, c'était ça, cette fois-là. Ouais. Puis on comprend, mais on vit en même temps un sentiment, tu sais, que le système nous avait laissé tomber parce qu'à l'époque, moi, il n'y en avait pas de diagnostic. Tu sais, il n'y avait même pas de spécialiste dans les écoles que j'ai fréquentées. Fait que c'est sûr, là, j'ai passé en dessous du radar.
Mais c'est que ça paraît pas comme, non plus. Oui, tu sais, t'as des formes d'autisme, des fois, que visuellement, tu es capable de dire par certains comportements que, ah, clairement, il y a une tendance, il y a quelque chose, mais quand ça paraît pas, puis tu le vis intérieurement,
on n'a pas tous besoin du même niveau de support. Donc, moi, mon niveau de support, il est plus faible qu'un autiste qui serait niveau 3, non-verbal, peut-être avec déficience intellectuelle. Clairement, il a besoin de beaucoup plus d'être supporté, puis lui, on va plus remarquer cette personne-là. Si un autiste fait du stimming, qui est des mouvements répétitifs pour se calmer, puis qui est incapable de s'arrêter de le faire publiquement, bien, on va se douter qu'il est autiste. Moi, mon stimming, vous le verrez jamais.
Est-ce que tu le dis?
Si je le dis,
bien, est-ce que quand tu rencontres des gens ou est-ce que tu en parles automatiquement de on appelle ça double exceptionnalité, est-ce que tu en parles que tu as une douance puis un autisme pour éviter des...
Ma psy va aimer ce que je vais répondre.
Ah! On la salue.
J'ai tendance, moi, à me dévoiler facilement puis à m'exposer. Je vois ça comme un peu ma mission d'éducation, mais en même temps, il y a des gens qui ne sont pas dignes de recevoir cette information-là et qui vont l'utiliser contre moi. Fait qu'il faut que je fasse attention. Puis maintenant, j'en ai conscience grâce à elle. Fait que maintenant, je me questionne si je le dévoile ou pas. Là, je suis en train de le dire à la radio.
je trouve ça intéressant. Ouais. Puis je parle toujours, quand on parle d'autisme et tout ça, puis là, toi, en plus, tu as le HPI qui s'ajoute à ça. Il y a un auditeur que j'avais dans le temps qui m'appelait, puis souvent, il aimait bien ça m'appeler pendant les pauses, puis il me jasait, puis il me racontait une portion de sa vie. Puis tu sais, je le remercie encore à ce jour parce que j'ai appris plein d'affaires par ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, Yann, j'ai été passer des tests avec mon gars parce qu'on soupçonnait qu'il pouvait être autiste. Mm-hmm. Et le médecin s'est reviré vers moi, il a dit « Vous aussi, vous allez passer le test. » Et il a passé un test, puis il a eu effectivement le diagnostic, tout comme son gars qui était autiste. Puis il dit « À ce moment-là, ça a été une libération pour moi, parce qu'avec toutes les interactions sociales, je vais constamment de la difficulté. Les trucs que je devais faire, puis il m'avait donné un exemple, quand il recevait des gens à la maison. Le gars, c'est un homme d'affaires, c'est un informaticien, puis il travaillait de la maison. Fait que quand il recevait des gens à souper à la maison, avec toute la famille et tout ça, quand les gens disaient « ben nous, on va quitter », lui se levait puis il s'en allait dans son bureau travailler. Parce que dans sa tête, il était parti. Il disait qu'il s'en allait. Mais là, lui, sa conjointe lui reprochait tout le temps qu'au niveau social, il y avait certains manques. Puis il s'en voulait de ça parce qu'il disait « oui, c'est ça que j'ai, pas normal. » Moi, dans ma tête, ils sont partis, mais c'est parce qu'il ne les raccompagnait pas jusqu'à la porte.
Puis c'est particulier.
À ce moment-là, ça a fait comme Natacha. Quand il a eu son diagnostic, il dit « ça a été une libération parce qu'enfin, j'ai su que c'est pas parce que je me crissais des gens. » Oui,
il y avait plus que ça.
Excuse, Audrey. C'est un bel exemple de situation, justement, où là, c'est comme si on laisse paraître un petit peu sans le vouloir notre côté autiste, ça nous a comme échappé, là, tu sais. Fait qu'il y a des petites choses des fois qui nous trahissent. Mais moi, je vous dirais que maintenant que je sais que je suis autiste, quand j'invite des gens chez moi, ils ont une heure d'arrivée, mais ils ont aussi une heure de départ.
Ah ouais?
C'est donc, bien je t'invite drôle, chez moi pour prendre le thé de 2 à 4. C'est comme ça que ça fonctionne,
ah ouais?
À part quelques fois exceptionnelles.
Ça froisse-tu certaines personnes ou c'est...
Non. Je dirais
que... pour des dates, c'est weird.
Mais c'est ça. C'est un peu apprendre ou à laisser. C'est ça que je fonctionne. Moi, ça m'angoisse de ne pas savoir quand les gens vont partir.
Ah ouais.
Ça m'angoisse parce que là, je me dis comment je vais faire pour leur faire savoir que là il faudrait qu'ils partent.
Je comprends.
Fait que là, je dépasse ma capacité à moi.
Tu fermes les lumières, tu fermes la musique.
Ouais, c'est ça. Mais là, je
Il y en a qui vont se coucher. Les gens sont encore debout. Mm. Ils se lèvent, ils sont chez eux. Ils se lèvent, ils s'en vont se coucher.
Ouais.
C'est particulier. Hein? Ben, j'aime le fait de mettre des limites, par exemple.
Moi dans une activité sociale, mettons, qui n'était pas chez moi, là, on va dire, je t'ai invité chez des gens, puis que là, ça durait beaucoup trop longtemps pour moi, ce qui n'est pas long, hein, parce que je n'ai pas la batterie sociale très longue, j'allais dans les toilettes. Les toilettes, c'est le refuge des personnes autistes.
Ah oui?
Oui, parce que là, tu t'isoles du bruit, tu peux tamiser souvent la lumière ou en tout cas avoir une lumière moins dérangeante, puis surtout, tu interagis avec personne. Puis là, tu restes là le temps que tu penses que ça paraît pas trop, puis tu y vas plus souvent. Puis moi, c'est comme une petite pause que je prends. Mais quand on parle des fois entre personnes autistes, là, tu sais, ça, c'est des petites choses qui peuvent nous trahir des fois. Tu sais, avoir besoin de s'isoler dans une activité sociale pour reprendre le souffle. Mais tu sais, c'est pas... Je fais pas ça juste depuis un an ou deux, là. J'ai fait ça toute ma vie. Moi, après les repas familiaux, là, j'allais toujours m'enfermer dans la salle de bain, puis mes parents, ils disaient que je voulais pas faire la vaisselle.
Oh, ce qui n'était pas tout à fait tort, là.
Ce qui n'était pas tout à fait faux.
Je faisais la même affaire, mais moi, c'était pour pas faire la vaisselle.
Oui, c'est
mais
ça. Moi, c'était réellement pour pas faire la vaisselle.
Moi, j'étais vraiment épuisée parce que souvent, les repas, c'était des interactions. Le pire, c'est que c'est pas qu'on n'aime pas ça. C'est ça l'affaire, puis c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que moi, j'aimerais avoir la capacité de... Mais je dois reconnaître que je ne suis pas capable.
Tu deviens fatiguée.
Je deviens épuisée, puis je dois calculer l'énergie que je dépense, puis je dois même en économiser en vue d'une activité. Si j'ai de quoi vendredi, par exemple, bien, je ne verrai pas d'humain à part pour mon travail de toute la semaine, parce que je sais que vendredi, j'ai quelque chose. Je dois gérer
ta vie en conséquence.
Nous, on appelle ça gérer nos cuillères. Là. C'est une expression dans le monde des autistes. C'est que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui essayait d'expliquer à une personne non autiste sa maladie chronique. En fait, c'est quelqu'un qui avait de l'épuisement chronique, là, de la fatigue chronique. Puis elle disait, imagine, tu sais, que toi puis moi, on commence notre journée, puis on a des cuillères, puis qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça nous coûte, mettons, une cuillère. Bon, déjà, en partant, on n'a pas le même nombre de cuillères, toi puis moi. Toi, tu en as peut-être 10, puis moi, j'en ai peut-être 7. Puis après ça, ce qui te coûte une cuillère, mettons, voire du monde, moi, ça m'en coûte peut-être 3. Bon, là, je fais des chiffres à peu près, là, vous comprenez le principe. Ça veut dire que je vais venir à court de cuillères pas mal plus vite que qui que ce soit. Mm-hmm. Fait qu'il faut que j'économise des cuillères. Fait que si j'en ai juste 7 par jour, puis j'ai une interaction sociale vendredi, je vais minimiser les dépenses de cuillères pour en avoir plus pour le vendredi.
Natacha, j'ai envie de te demander, parce qu'il y a beaucoup de textos qui entrent, soit de parents qui reconnaissent des traits chez leurs enfants ou qui sont en processus de, ou des adultes qui reconnaissent des proches. Ça fait réagir quand même pas mal au 971-1021. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là. Est-ce que tu as un conseil peut-être pour des parents d'enfants, justement, qui auraient peut-être soit l'autisme, soit la douance, soit un amalgame des deux, mais bref, qui seraient dans ce train-train-là sans trop s'en rendre compte?
Ouais. Bien, il y en a un j'aimerais leur partager parce que c'est quelque chose que j'entends. C'est pas quelque chose que j'ai subi, là, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup de parents qui hésitent à aller faire évaluer leur enfant parce qu'ils veulent pas qu'il porte une étiquette. Puis je comprends de où ça vient, là. Tu sais, je suis capable de comprendre que c'est parce qu'ils veulent le bien de leur enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, l'étiquette, ils en ont déjà une. Ils sont l'enfant weird du groupe. Ils sont celui qui n'est pas comme les autres, celui où c'est. Ils sont déjà étiquetés, mais avec des mots qui sont pas mal plus durs, pas mal plus cruels, qui vont laisser des traces beaucoup plus profondes que de savoir que tu as un TDA, savoir que tu as une douance, savoir que... Moi, je pense qu'une fois qu'on sait, les parents peuvent s'éduquer eux-mêmes, ils peuvent donc agir avec plus de discernement dans l'éducation de leur enfant, ils peuvent accepter mieux sa différence, parce que même comme parents, on souhaite tous avoir des enfants qui sont... pas différent. T'sais, on cherche toutes des enfants, tu sais, qui soient bien, mais tu sais, qui soient pas trop en dehors de la norme. Puis quand t'en as un numéro spécial, ben là, tu pourrais même toi voir ça négativement, alors que c'est plein de richesses aussi, là, tu sais, les différences, là, faut arrêter de voir ça comme des menaces. Ouais. C'est ça qui fait qu'on est une société riche de différentes choses. Puis c'est ça, fait qu'on pourrait, moi, ça serait ça mon conseil, de savoir pour après ça s'éduquer, puis après ça pouvoir mieux encadrer, mieux respecter aussi notre enfant.
Je te remercie beaucoup, Natacha, de ton témoignage. Sincèrement, il y a plein de gens qui nous écrivent, puis ce beau commentaire-là que tu viens d'émettre, puis avec peut-être une recommandation, c'est-à-dire aller faire diagnostiquer vos enfants. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment pertinent parce qu'en tant que père, tu sais, on veut tout le temps des enfants qui sont exceptionnels, puis on veut tout le temps des enfants qui sont parfaits, puis mais on veut qu'ils restent comme scindés avec leurs amis puis qu'ils ne soient pas trop différents. Ouais. C'est weird, hein, en tant que parent, des fois, les choses qu'on peut penser. Mais ils ont des particularités, tu as une particularité. Puis, tu sais, si tu l'avais détecté, je ne sais pas, moi, si on l'avait détecté à 5, 6, 7, 8 ans, bien, on aurait peut-être pu t'encadrer plus pour que tu n'aies pas autant de souffrance jusqu'à tes 53 ans. Tu sais, pas savoir qui on est vraiment pendant 50
c'est
ans,
difficile.
Ça doit être souffrant parce que c'est une multitude.
Pense à l'adolescence.
C'est une multitude de questions exactes que tu te poses. Quand voyons, pourquoi moi, ça marche pas de même? Pourquoi ça marche? Pourquoi eux autres, ça marche, tu sais? C'est un super de beau témoignage, honnêtement.
Merci.
T'es très gentil de nous faire part
Est-ce
de toutes ces informations.
Est-ce que je pourrais plugger quelque chose?
Ben oui, toujours.
Le 12 mars va sortir en librairie un livre d'une autrice québécoise que j'affectionne beaucoup, qui est Mélissa Perron. Et elle a écrit sur son histoire, mais son histoire, c'est mon histoire, puis c'est l'histoire de presque toutes les femmes autistes diagnostiquées à l'âge adulte. Donc, je vous encourage fortement à vous le procurer, c'est « Femmes caméléons ». J'y avais demandé l'autorisation là, d'en parler en ondes, puis c'était plus un secret, là, j'avais le droit de le dire, fait que je veux que tout le monde sache, même si vous n'êtes pas une personne autiste ou que vous n'en connaissez pas, ça vaut la peine de s'informer, de s'éduquer.
Oui,
Natacha Barrette, un gros merci d'être passé à l'émission, puis ben, c'est sûr qu'on va se rejaser dans quelques semaines, ça sera pour un autre sujet.
on va en trouver.
11h14, on s'arrête, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021.
Boulevard 102.1.
Ah, c'est un bon début de journée. Sérieusement, quand vous êtes sorti ce matin, avouez, la température est agréable.
Hey, moi, j'ai capoté quand je suis sortie du gym, je suis restée en T-shirt.
C'est vrai?
Absolument.
T'es sortie de main.
Ah, bien, absolument. Ça, du gym, j'ai mon manteau, ouais. On s'entend, là.
Ça, c'est une particularité. Quand l'hiver est entamé, puis on a des redoux, ou quand on arrive sur le bord du printemps, ouais. Bien, les gens se déshabillent très
absolument.
Vite.
Puis mais pourtant, un 4 degrés.
T'as-tu remarqué qu'à l'automne,
ben oui.
À la même température, le monde a des trucs sur la tête.
On est niaiseux, hein?
Quoique, il y a des générations qui ont des trucs sur la tête à l'année maintenant.
Oh, bon, bon, bon. Le père qui parle. Toi.
Hey, vous parler, puis on va revenir sur le dossier de Natacha Barrette, là, qui était avec nous pendant une trentaine de minutes pour nous parler de haut potentiel intellectuel et d'autisme, parce qu'elle est atteinte des deux. Est-ce qu'on dit on atteint, ça se dit?
Oui, elle a les deux, là. Mais, elle a la double exceptionnalité qu'on appelle.
Ouais, c'est ça, je comprenais pas.
C'est pour
ça que je disais qu'elle est atteinte des deux.
Ça s'appelle la double exceptionnalité, c'est que tu as une douance et un autre trouble.
Visiblement,
comme
moi, j'en ai pas de douance.
TDA.
mais on va y revenir parce qu'on a de l'information à donner aux auditeurs. Il y a énormément d'auditeurs qui se sont informés sur l'autisme puis le haut potentiel intellectuel. Fait que je vais y revenir juste avant. Si tu as un club de hockey sur glace,
oui.
Que ce soit dans la Ligue du Vieux-Poil ou dans une ligue professionnelle, ben tu peux t'inscrire au Match Boulevard. C'est la classique qu'on fait chaque année depuis 3 ans. Quand je suis arrivé ici, je trouvais que ça manquait ça à la station, des rendez-vous avec les auditeurs. Puis là, ben ils ont dit « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? » J'ai dit « Ben on va se battre contre les auditeurs. » Genre, tu sais, ça va être comme la Coupe des Quatre Nations, mais juste nous autres contre les auditeurs.
Juste une finale.
Puis dans les neuf premières secondes du match, on se drop.
Oui.
Là, ça n'a pas été accepté.
Non, c'est ça. Ils ne voulaient pas de grande bataille. Fait qu'on s'est dit qu'on allait perdre au profit du bonheur des auditeurs.
Pour faire plaisir aux auditeurs. C'est arrivé l'an passé contre les Boutons-Feu. On s'est fait torcher, on va se le dire. C'était une gang de bons Jack, puis leur conjointe était là, les enfants étaient là. C'est la classique boulevard. Il y a de l'animation sur place. Tout le monde de la station est là pour cette classique annuelle. Ça va être le 20 mars prochain au centre de glace Intact Assurance. Puis il y a des cadeaux aussi qui sont offerts. C'est une super de belle soirée. Si vous êtes auditeur puis vous ne jouez pas au hockey, mais ça vous tente de venir nous rejoindre, vous allez être les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde. Mais si vous êtes une équipe de hockey puis ça vous tente d'affronter le club des Essoufflés,
j'aime tellement notre nom d'équipe.
Qui vont tout faire pour vous battre, eh bien, vous pouvez aller inscrire votre équipe sur la page de Boulevard. Donc, blvd.fm, il y a un formulaire. Puis on a bien hâte de vous affronter sur la glace, les amis, le 20 mars prochain. Bonne chance.
Là, il y a deux affaires. La première, on nous demande le titre du livre que Natacha a conseillé. Ça s'appelle « Femme caméléon » de Mélissa Perron. Ça va sortir le 12 mars prochain. Et l'autre question qui revient beaucoup, Yann, c'est « OK, mais mettons là, que j'ai un doute pour un proche, pour mes enfants ou pour moi-même par rapport à la douance, le HPI, ou même à l'autisme, par où je passe? » Il y a le privé, mais sinon... Ouais.
Mais ça peut être pour vous, ça peut être pour vos enfants. Je pense que si je dis à Audrey... Je pense que t'es autiste, va te faire soigner. Tu sais, ça peut pas fonctionner, ça. Là.
Non, c'est
faut que
pas
tu y ailles pour toi-même, faut que tu y ailles pour tes enfants. Tu vas rencontrer premièrement ton médecin de famille.
Oui, si t'en as un.
Tu lui fais part de tes craintes. Oui. Lui, il va t'évaluer selon ses connaissances à lui. Mm-hmm. Puis après ça, il va te référer à des professionnels.
Exact.
Qui sont des spécialistes dans le domaine. Puis après ça, ben, il y a des tests que vous allez devoir faire. Puis c'est une libération. Tu sais, moi, j'avais un auditeur qui m'en a parlé. Là. Lui, il allait pour son fils. Puis le doc, il a dit, tu vas passer les tests aussi. Il dit, ouais, mais non, moi, je suis correct. Non, non, vous allez passer les tests aussi. Il les a fait. Puis il était autiste aussi. Puis pour lui, ça a été une libération. Puis au nombre d'auditeurs qui nous ont écrit, là, tu sais, qui ont été très touchés par le témoignage de Natacha, puis des gens qui disent, tabarouette, je me ressemble beaucoup dans tout ce qu'elle a mentionné. Ben écoutez, la prochaine fois que vous aurez un rendez-vous avec votre médecin, posez-lui des questions.
Ben, ah, vous perdez rien.
Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner là-dedans. Hey, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute avec Denis tantôt.
Absolument, apparemment, mon ami.
Est-ce que la grande dame de Boulevard 102 est revenue?
Elle est de retour. L'équipe se retrouve pour 4 jours parce que Denis repart la semaine prochaine.
Bon, ça va bien. Le clan de la savate électrique, c'est ce qu'on vous pose dans les oreilles dans les prochaines secondes.
Salut.
À tantôt, Audrey. Bye-bye.